Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Anissa El Jabri.
Bonsoir à tous. Au menu de cette émission, l'attaque terroriste de cette nuit, un meurtrier avec un passé djihadiste et déjà les questions sur les failles dans le dispositif sécuritaire. La 9e journée de mobilisation contre la loi travail, le bras de fer, exécutif, organisation syndicale. On parlera aussi primaire, la gauche. Peut-elle, doit-elle se choisir un candidat ? Notre invité, Annick Girardin, ministre de la fonction publique. Bonsoir.
Bonsoir.
Et autour de cette table, dans ce studio, Roselyne Fèvre, France 24 et Lilian Alemania, Libération. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, c'est une attaque inédite dans un domicile. L'auteur des meurtres du policier et de sa compagne dans les Yvelines avait déjà été condamné à de la prison pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes. Depuis ce matin, l'opposition demande davantage de fermeté. Nicolas Sarkozy estime que le niveau de vigilance doit être adapté sans délai. C'est les termes de son communiqué. On va écouter ce que dit lui, le député LR, Éric Ciotti.
Pourquoi, monsieur le Premier ministre, avez-vous systématiquement refusé les amendements, les propositions que notre groupe a portées pour faire en sorte que les individus signalés et celui qui est l'auteur de cette tragédie hier soir étaient suivis, vous l'avez rappelé, dans une procédure judiciaire? Pourquoi ces personnes sont laissées en liberté alors qu'elles sont connues, identifiées, placées sous écoute? Nous vous demandons leur placement dans des centres de rétention administrative.
Alors, comme vous venez de l'entendre, le député Éric Ciotti à la tribune de l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement cet après-midi, la droite, l'extrême droite aussi réclame un nouveau tour de vis. Annick Girardin, est-ce qu'à la lumière de ces événements, est-ce qu'il ne faut pas de nouvelles mesures ?
Moi, je crois qu'il faut se garder systématiquement de ne pas, de vouloir toujours en faire davantage. Ce gouvernement, c'est 3 lois sur le terrorisme, c'est 2 aujourd'hui sur le renseignement, c'est 11 000 nouveaux postes encore en création parce qu'il faut renforcer effectivement nos effectifs. Nous avons besoin de ressources humaines supplémentaires dans le domaine de la police, la gendarmerie, la surveillance, le renseignement. Tout ça est en route. Alors certes, effectivement, quand on a encore un attentat terroriste comme hier soir, affreux, qui frappe un couple de fonctionnaires, je le rappelle, et la ministre de la fonction publique souhaite dire à l'ensemble de la famille combien elle a une pensée très très forte pour eux, bien sûr pour l'enfant effectivement aujourd'hui qui reste orphelin, mais au-delà effectivement de ce que je viens de dire, je crois qu'il faut qu'on continue, continue à travailler de la manière dont on le fait. Le Premier ministre l'a dit plusieurs fois, le Président aussi, il faut le rappeler, c'est un combat de longue haleine. La lutte contre le terrorisme est quelque chose qui prendra du temps. Nous y avons mis les moyens, nous continuons à être mobilisés. Les ministres sont mobilisés, les forces sont mobilisées. Puis rappelons aussi qu'il n'y a pas que la France qui est touchée. C'est aujourd'hui une guerre qui est internationale. Pensons aux autres pays qui sont aussi touchés et qui, comme nous, combattent à la fois à l'international, de manière à lutter contre Daesh, là où il est présent. Je pense à l'Irak, je pense à la Syrie. Pensons à ceux qui en sont victimes au Mali, en Tunisie. Pensons à ceux qui viennent d'en être victimes aussi aux États-Unis. Et continuons tous ensemble à lutter contre ces actes horribles, ces actes violents. Et nous savions qu'à partir du moment où il y aurait des actes isolés, comme celui de hier soir, ce serait compliqué. Compliqué parce que pas facile à déterminer, à recenser, à répertorier, même si on a un certain nombre d'informations. C'est quelqu'un qui était aujourd'hui dans un processus, on le croyait, de réinsertion, et qui, malgré tout, effectivement... Alors, il faut regarder ce que va dire l'enquête. Le procureur s'en est saisi. Quelles seront les conclusions pour nous dire pourquoi? Parce que c'est ça que les Français ont besoin de savoir. Pourquoi? Pourquoi c'est arrivé alors qu'effectivement, c'est quelqu'un qui avait été condamné? C'est quelqu'un qui était en sursis.
Dans vos propos, Annick Girardin, il y a une forme d'impuissance. On a l'impression que du coup, le Premier ministre l'a dit, le risque zéro, certes, n'existe pas, mais on ne pouvait pas empêcher ou on ne pourra pas empêcher d'autres... crimes et assassinats de ce type-là.
Il y aurait une centaine de profils en France, disait un député socialiste, c'est spécialiste de ces questions ce matin, une centaine de profils de ce type en France aujourd'hui.
Alors, il y a plusieurs chiffres qu'on peut citer. Il y a 9500 individus aujourd'hui qui sont ou qui ont été signalés sur la plateforme d'information qu'on a. On a plus de 1200 Français qui se sont rendus en Syrie, en Irak et ailleurs. On a effectivement aujourd'hui une centaine d'arrestations qui ont été faites dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. Le risque zéro n'existe pas. Et nous le savons, la France sera encore frappée. Alors, quand je dis ça, il faut aussi rappeler les moyens que nous avons mis, en place. Et que la lutte, elle continue et elle est journalière.
Est-ce que cette impuissance, vous la liez au modus operandi, en quelque sorte, de ces fameux loups solitaires, même si certains spécialistes du terrorisme ne valident pas cette notion de loup solitaire, que ça n'existe pas? Est-ce qu'on est face quand même, là, et comme on le voit d'ailleurs aux États-Unis, à un nouveau phénomène? On ne peut pas être derrière chaque individu. Cette impuissance, vous la liez à cette nouvelle forme de terrorisme?
Alors, cette forme de terrorisme, c'est plus l'action qui est solitaire. Hein. C'est plus un acte, effectivement, isolé, ou du moins fait par un individu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un réseau. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un réseau derrière l'ensemble de ces individus.
Oui,
qui
bah alors là, ça voudrait dire qu'il y a une vraie
impuissance
des services, donc.
Non,
si y a un vrai réseau derrière.
Que là, donnez-nous juste le temps, puisque le procureur s'est saisi de l'affaire, donnez-nous juste le temps d'arriver à des conclusions, d'aller au bout de l'enquête et de pouvoir savoir si cet acte, il est totalement isolé ou si, effectivement, il y a un réseau et il y a un moment où c'est déclenché. En même temps, on voit bien que quand on regarde les horreurs aussi de cette fin de semaine à Orlando, cette volonté de provoquer de la terreur et de l'angoisse en permanence par l'État islamique, par Daesh. Et il faut être conscient des réalités, des risques. Il faut combattre contre le terrorisme, il faut combattre contre la radicalisation, parce que n'oublions pas que le sujet, c'est aussi la radicalisation.
Mais il n'y a visiblement pas de logistique derrière. Ce sont des jeunes, des jeunes qui sont en rupture avec la société et qui, du jour au lendemain, décide de faire allégeance à Daesh, ce qui veut tout dire et rien dire du tout. Donc, comment on lutte face à ça?
C'est, du jour c'est au lendemain, oui et non, puisqu'on sait effectivement qu'il y a 2013, qu'il y a l'épisode.
À Orlando,
on ne sait pas ce qui a déclenché cet acte aujourd'hui.
Bon. En tout cas, on a le 13 novembre au soir, on s'en souvient, le président, après le Bataclan, annonce la mise en place de l'état d'urgence. L'autre question est toute simple. On l'a prolongé à plusieurs reprises. À quoi ça sert, ça, l'état d'urgence?
À l'état d'urgence donne quand même un certain nombre de moyens. Et le ministre de l'Intérieur, vous rappellerez largement que ça lui permet effectivement pouvoir faire un certain nombre d'arrestations, de pouvoir mettre un certain nombre d'individus sous contrôle, de pouvoir effectivement avoir des enquêtes plus poussées, des informations qui nous permettent effectivement d'aller plus loin. Alors, vous parlez d'un acte isolé, donc effectivement, c'est pas facile, et que je vous donnerai pas la réponse là aujourd'hui tant qu'on n'a pas d'informations supplémentaires. Ce qui est important, c'est de rappeler que ce sont des fonctionnaires et notamment des policiers ou un policier qui a été visé. Et moi, je crois qu'il faut le redire. Il faut redire que ce qui est visé par les terroristes aujourd'hui, c'est la représentation de l'État. C'est encore une fois nos valeurs, c'est encore une fois notre République. Et il est important de soutenir aujourd'hui tous les fonctionnaires, et c'est mon rôle de ministre de la fonction publique, tous les fonctionnaires qui sont engagés dans cette lutte contre le terrorisme et la radicalisation, qui sont sur le terrain chaque jour. Et je voudrais le redire que dans ce contexte particulier où la France est menacée par le terrorisme, j'ai beaucoup de difficultés à accepter dans des manifestations comme aujourd'hui qu'on trouve encore des casseurs qui mobilisent encore une fois un certain nombre de policiers sur le terrain. Et je crois que la France vit dans un contexte très particulier où la notion de responsabilité devrait davantage être partagée.
Il y a une forme d'indécence aujourd'hui à ce qui se passe, ce qui s'est passé ce matin, et effectivement ces casseurs qui profitent peut-être de...
Alors qu'on ne se méprenne pas sur mes propos, je ne condamne pas du tout, au contraire, la grève ni les manifestations.
Vous ne condamnez pas. Vous
au
condamnez
contraire,
pas les manifestations.
Les manifestations doivent pouvoir avoir lieu et on doit pouvoir entendre la rue, entendre les violences, non. Entendre les casseurs,
d'accord.
Non. Condamner ces actes de violence, oui. Mobiliser, effectivement, parce qu'il y a de la casse, un certain nombre de forces policières en plus grand nombre, c'est des risques que nous prenons.
Pourquoi est-ce que le gouvernement, depuis ce matin, fait le lien...
partage des responsabilités.
Pourquoi est-ce que le gouvernement, depuis ce matin, fait le lien entre un acte terroriste et des déclarations ou des affiches de la CGT contre la police?
Alors, L'idée, c'est pas de faire le lien, c'est de montrer quelles sont les responsabilités de chacun dans un contexte particulier où la France est agressée. Elle est agressée de l'intérieur, et il nous faut absolument qu'on arrive à mobiliser toutes les forces pour ce combat. Au moment aussi où la France reçoit l'euro. Et où la France doit aussi pouvoir garantir, et c'est ce que nous faisons, la sécurité de l'ensemble des manifestations qui ont lieu aujourd'hui sportivement, mais aussi des touristes qui viennent nous visiter dans ce cadre-là.
Et dans ces manifestations, il y a aussi
sur plusieurs fronts, et que dans ce moment-là, je le redis, chacun doit prendre sa part de responsabilité. Et tous les actes de violence doivent être condamnés, et cette montée de la haine que nous connaissons dans ce pays doivent être condamnés. La mobilisation des forces de sécurité est aujourd'hui totale, mais elle a effectivement aussi, à un moment donné, ses limites.
Parce que la dénonciation des violences policières a été faite aussi parce qu'il y a eu, sur des cas isolés, deux fonctionnaires de police de manière isolée, des vidéos montrant aussi une certaine forme de violence à l'égard de certains manifestants. C'est aussi de là qu'est venue ces critiques envers certaines pratiques de la police dans les manifestations.
Alors si violence policière il y a et il y a eu, elles doivent être condamnées. J'ai toujours dit, moi, que je serai toujours là pour défendre les fonctionnaires quand ils sont agressés ou attaqués à tort. En même temps, les fonctionnaires doivent donner l'exemple, doivent être exemplaires. Et moi, je me bats pour que la fonction publique, elle soit exemplaire. Et je m'y bats au quotidien. Donc oui, dénoncer les violences policières quand elles existent. En même temps, ça ne peut pas expliquer ni justifier l'ensemble des mouvements que nous avons aujourd'hui de casseurs, de gens qui viennent dans des manifestations avec un seul objectif, casser, exprimer leur haine, leur violence. Et ça, c'est quelque chose qui est inadmissible.
Je dirais, là, on parle beaucoup de la fatigue des policiers après l'état d'urgence, l'euro, les difficultés dans les manifestations. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette proposition de la droite qui dit, par exemple, qu'il faudrait alléger la police d'une partie de ses tâches qui sont pas essentielles au maintien de la sécurité, et que ces tâches-là, on pourrait les confier à des sociétés de sécurité privées?
Alors, il y a déjà en France des sociétés de sécurité privées, le tout est encadré, géré.
Est-ce qu'il faut en faire davantage ?
C'est pas notre vision des choses. Nous sommes aujourd'hui en cours de création d'11 000, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 11 000 nouveaux postes pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Et je crois que c'est cette ligne qu'il faut garder. Chacun ses fonctions, chacun son rôle. Les fonctionnaires portent les valeurs de la République. Et c'est dans ce cadre-là que nous devons effectivement intervenir. Donc les policiers, les gendarmes, les enquêteurs sont aujourd'hui renforcés en nombre. Et nous arrivons effectivement à récupérer le niveau de 2012 et à faire même encore mieux de manière à protéger les Français et la France.
Alors sur la manifestation en elle-même, les tout premiers chiffres, la CGT parle d'1 300 000 personnes à Paris, la police, la préfecture de police de 80 000 manifestants. En tous les cas, on est très légèrement au-dessus de la plus grosse journée de contestation. Est-ce que vous reprendriez à la formule de baroud d'honneur, ou est-ce que vous vous dites on est toujours face à une contestation extrêmement élevée de la loi travail ?
Il y a une contestation. Cette contestation, elle s'exprime aujourd'hui dans la rue. Elle est menée par la CGT et d'autres syndicats. On y retrouve également FO. Je crois que ce qui est important, et je l'ai déjà dit, c'est que le dialogue soit à nouveau présent entre le gouvernement et les syndicats. Et c'est donc vendredi prochain que la ministre de l'Emploi...
Bah
écoutez,
il y a eu, semble-t-il,
des échanges entre eux, et que cette rencontre avec Monsieur Martinez a été fixée à vendredi prochain, puisque d'autres rendez-vous n'étaient pas possibles, attendant cette rencontre pour savoir si ce dialogue il peut être repris. Mais faut être très clair, tant qu'on est dans le bras de fer, tant qu'on est dans la demande du retrait de la loi ou encore de l'article 2, on voit bien qu'il n'y aura pas de possibilité de dialogue. Le dialogue, il ne peut se faire que dans le cadre d'un projet de loi qui gardera la philosophie qui y est développée. Donc, Les échanges vont avoir lieu vendredi. Moi, je souhaite véritablement que Monsieur Martinez et la ministre El Khomri puissent se mettre d'accord sur de nouveaux rendez-vous. On voit bien aussi qu'il y a des initiatives prises à l'Assemblée nationale. On voit surtout que le texte est aujourd'hui en discussion au Sénat et aux sorties des premières rendez-vous, des premières réunions de travail en commission. On voit bien que la droite montre là, puisqu'elle est majoritaire, sa vision du travail pour la France. Et on voit bien que deux logiques s'affrontent. Donc à un moment donné, il faut aussi regarder les choses clairement. Qu'est-ce que la gauche propose ? Qu'est-ce que la droite propose ?
Alors justement, sur la gauche, Madame la Ministre, on a vu que François Hollande avait quand même bloqué la réforme de la SNCF hein, pour faire passer, il y a eu quand même, pas des cadeaux, mais enfin, il y a eu des gestes de fait. La CGT dans le service public, elle est puissante. Hein. Elle, en quelque sorte, elle vous renvoie pas l'ascenseur parce qu'il y a eu un point d'indice qui a été revalorisé. Revalorisation de carrière depuis plusieurs années. Les fonctionnaires n'ont pas perdu en pouvoir d'achat. Est-ce que vous considérez que, dans le fond, la CGT ne vous renvoie pas l'ascenseur ?
Alors, moi, je dialogue avec 8 organisations syndicales dans le cadre de la fonction publique. Si on prend un simple chiffre, jamais les manifestants dans la fonction publique ont dépassé, depuis que je suis là, 3%. Il y a donc un dialogue permanent que moi j'ai avec les syndicats. Le dernier, il y a quelques jours, pour la préparation de la loi sur l'égalité réelle en Outre-mer, où nous avons débattu ce matin sur les questions de logement dans la fonction publique, où nous étions tous ensemble. Il n'y a pas à rendre ou pas rendre. Moi, j'ai un dialogue en tant que ministre de la fonction publique avec l'ensemble des organisations syndicales, où j'ai pour habitude d'entendre, de débattre, de discuter et ensuite, effectivement, de faire des choix.
Un rapport sur le temps de travail vous a été remis, le temps de travail des fonctionnaires, il y a environ 3 semaines. Selon ce rapport, les agents des administrations publiques travaillent 15 journées de moins par an que les salariés du secteur privé. Alors, est-ce que vous faites vôtre les conclusions de ce rapport? Et surtout, est-ce que vous avez intention de prendre des mesures, de vous inspirer des recommandations qui ont été formulées?
Alors d'abord, dire que les fonctionnaires, ils sont au travail. Et vous rappelez aux Français que les services publics, ce sont les fonctionnaires qui, effectivement, aujourd'hui, les font vivre. Et on ne peut pas dire que l'on veut moins de fonctionnaires et plus de services publics. Moi, ces fonctionnaires, ils sont aujourd'hui au travail. Certes, vous l'avez dit, il y a 1,4% en moins que 35 heures au rendez-vous. Et ce rapport, c'est le Premier ministre qui l'a voulu. Il nous a été rendu avec un certain nombre de propositions. Nous l'avons présenté à la presse, nous l'avons avec effectivement Philippe Laurent. Nous le présenterons très vite, dans quelques jours, à l'ensemble des organisations syndicales et aux employeurs. Et nous travaillerons sur des préconisations et comment effectivement pouvoir retenir un certain nombre de propositions. En même temps, quand les fonctionnaires ne sont pas au rendez-vous des 35 heures, ça s'explique aussi. C'est-à-dire qu'on a le travail de nuit en milieu hospitalier qui fait effectivement qu'il y a des conventions, des contrats, des accords particuliers. Il y a les questions d'astreinte. Tout n'est pas non plus lié qu'à des jours de congés supplémentaires, parce qu'il y en a, mais tout n'est pas effectivement lié à ce genre de choses. Donc il faut regarder de manière apaiser ce rapport. Moi, j'ai voulu qu'il soit immédiatement connu, médiatisé, qu'il soit sur le site du ministère et qu'on puisse en débattre avec les organisations syndicales.
Lilian Lemagnier.
Je reviens sur la loi travail. Vous avez parlé de dialogue et de possibilité de trouver peut-être un compromis avec les organisations syndicales. En même temps, ils demandent le retrait de l'article 2, même s'ils ne demandent plus le retrait de la loi, ils redemandent le retrait au moins, si ce n'est plus de l'article 2, comment vous allez trouver aussi un compromis avec votre propre majorité et éviter un 49-3 au retour à l'Assemblée début juillet?
Et vous avez 45 secondes.
Alors d'abord, le texte, il sort du Sénat. Il va falloir effectivement à l'Assemblée nationale le réécrire avec les parlementaires qui ont déjà commencé ce travail. Je ne vois pas pourquoi, dès maintenant, on doit dire que ce sera obligatoirement un échec. Le dialogue, l'échange se fera à l'Assemblée nationale. Vous savez, moi, j'ai été parlementaire et il y a une liberté large d'échange et de proposition de la part des parlementaires. Nous verrons effectivement à l'issue qu'est-ce qu'il faudra avoir comme position côté, effectivement, gouvernement.
Bon, c'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve avec Annick Girardin, ministre de la fonction publique, juste après les informations.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr. Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Anissa El-Jabri.
Mardi politique, deuxième partie avec notre invité Annick Girardin, ministre de la fonction publique, membre aussi du Parti radical de gauche, Roselyne Fèvre, France 24, Lilian Alemania, Libération. Alors dans cette deuxième partie, on va parler de l'organisation ou non d'une primaire à gauche. La décision pourrait peut-être être tranchée cette semaine. Mais avant cela, Roselyne Fèvre avait une question.
Oui, comment regardez-vous cette sorte de concours Lépine de la suppression du nombre de fonctionnaires à droite, hein, Juppé, ce serait entre moins 200 000 et 250 000. Fillon, lui, dit 600 000 en 5 ans. Et alors, carrément, Bruno Le Maire, c'est 1 million en 10 ans. Et vas-y que je te pousse. Comment regardez-vous ce phénomène, dans le fond, celui qui ira le plus loin sur les fonctionnaires?
Alors c'est évident que dans cette période de primaire à droite et à l'approche donc de ces primaires, on a une espèce de climat autour de la fonction publique où on a clichés, stéréotypes et un certain nombre de faux débats. Moi je les classerais comme ça, de faux débats en direction de la fonction publique. Donc il y a la suppression effectivement de 100 000 ou 150 000 à 1 million de fonctionnaires. Mais je crois que ces faux combats, c'est effectivement le statut, c'est effectivement les effectifs, c'est effectivement les 39 heures ou le jour de carence qu'on nous rabâche régulièrement. Moi, je préfère travailler sur ce que j'ai envie de dire ou appeler des vrais combats. L'ouverture de la fonction publique, sa diversité, l'innovation dans la fonction publique, la jeunesse dans la fonction publique, quand on est à 8% de moins de 30 ans dans la fonction publique seulement, on a des vraies questions. Et moi, je crois, et je l'ai déjà dit, dans le fonctionnaire. Le fonctionnaire, c'est aujourd'hui celui qui défend les valeurs de la République. C'est celui qui s'est engagé dans la fonction publique, qui est aux côtés des citoyens pour répondre à ses besoins, pour assurer sa sécurité. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on garde quand on veut enlever autant de fonctionnaires? 1 million, on dit quoi? Plus de fonctions publiques hospitalières? Plus de fonctions publiques territoriales? Et on ne garde que quelques ministères régaliens? C'est pas la France de demain, c'est pas celle que je souhaite pour mes enfants et pour mes petits-enfants. Au contraire, et je crois pas que c'est celle que souhaitent les Français, parce qu'ils ont rappelé qu'ils étaient très attachés au service public. Et moi, je veux redire que le service public n'existe pas sans fonctionnaires. Et je crois qu'il faut, par contre, peut-être, redonner du sens à l'engagement des jeunes dans la fonction publique. Avoir une fonction publique exemplaire, une fonction publique plus attrayante, une fonction publique plus transparente, plus ouverte, je l'ai dit. Et je crois que c'est sur ces pistes qu'il nous faut effectivement travailler pour avoir une meilleure réponse. Vous savez, on a aujourd'hui une société politique française qui connaît une crise de confiance, confiance sans précédent d'ailleurs, en son politique, on va dire, gouvernement, institution. Et il faut que, et on note effectivement des protestations très fortes ou non-participation aux rendez-vous électoraux. Et donc, on voit qu'il y a une réponse à apporter. Alors, est-ce qu'il faut modifier cette 5e République? Vous savez, les radicaux de gauche se sont posés souvent comme les défenseurs d'une nouvelle République qu'on peut appeler 6e ou 7e. Une République, parce qu'elle est claire, cette République, notre République, elle n'a pas besoin d'être un astre figé. Elle peut évoluer. On est une vraie problématique
justement,
aujourd'hui
ce moment,
sur nos institutions.
On entend beaucoup parler de réforme institutionnelle en ce moment. Effectivement, est-ce que vous avez le sentiment, comme on en prête l'intention au président, qu'il réfléchit, en effet, sérieusement, par exemple, à la suppression du poste de Premier ministre?
Écoutez, je ne sais pas effectivement si le président y réfléchit en tant
que... Ça serait une bonne idée.
Radical de gauche, vous savez qu'on a toujours défendu une 6e République. Et dans cette 6e République ou une 7e, il y a cette question effectivement de suppression du poste de Premier ministre. L'important, c'est d'avoir une République qui réponde à l'ensemble des défis que nous avons à relever. Les évolutions technologiques, sociétales, environnementales, c'est des vrais combats. Le combat, le défi du numérique, le défi de la sécurité. Mais au-delà de tout ça, ce sont nos institutions. Si on prend la loi travail, six mois, avant qu'effectivement on aille au bout de ce débat sur la loi travail.
Oui, mais c'est aussi la démocratie. C'est aussi la démocratie de discuter à l'Assemblée nationale, au Sénat,
Qu'il
y ait des échanges entre les...
Mais on peut faire de la démocratie un peu plus vite. On peut faire de la démocratie un peu autrement.
Enfin, là, vous le faites en 49-3, donc il n'y a pas de vote.
Donc, enfin, le 49-3 n'a pas permis d'aller plus vite. C'est pas vrai. Le 49-3 a arrêté, effectivement, les débats à l'Assemblée nationale. Mais le délai est toujours le même avant d'aller au Sénat. Donc, ne faisons pas croire qu'il y a eu du 49-3 pour aller plus vite. C'est pas vrai. Ça ne permet pas d'aller plus vite.
Tu l'as dit, c'est un outil de la Constitution.
C'est un outil de la Constitution. Il a été utilisé. C'est pas ça, ce que moi je dis. Ce que je dis, c'est, effectivement, on a aujourd'hui un système beaucoup trop lent, un système même paralysant, quelquefois. Et d'ailleurs, quand on regarde le système français, quand on regarde l'Europe, quand on regarde les Nations Unies, moi qui ai travaillé 2 ans avec un certain nombre de partenaires internationaux, je crois que toutes nos organisations sont aujourd'hui, nous conduisent à des lenteurs dans notre mode de fonctionnement, une technocratie très forte, souvent paralysante, et il nous faut avoir le courage d'y réfléchir.
Mais tout, c'est pas la prise de décision qui est lente, parce que le processus législatif, si on prend la loi travail, il y a eu une semaine de discussion en commission des affaires sociales, il y a 2 semaines de discussion prévues à l'Assemblée nationale en débat, ça fait 3 semaines de débat pour une loi qui est quand même très importante. C'est pas lent, 3 semaines.
Ah, mais vous oubliez effectivement le passage en Conseil des ministres, le Conseil d'État. Vous oubliez effectivement qu'on a des étapes comme ça qui se font. Donc, on doit y réfléchir, surtout dans un monde aujourd'hui qui va très très vite. Alors, je ne dis pas qu'il faut se laisser emmener et il faut sacrifier la moindre seconde de démocratie. Au contraire. Mais on peut avoir une démocratie plus forte, plus participative autrement. Moi, j'en suis persuadée.
Il faut que ce soit un thème de la campagne présidentielle.
C'est un thème indispensable. On voit bien qu'on est au bout d'un système, qu'il soit effectivement français ou européen. Moi, j'en suis aujourd'hui persuadée. Et je crois que c'est le travail que tous les groupes politiques doivent mener aujourd'hui. C'est le travail que moi, je propose effectivement aux radicaux de gauche. Nous devons avoir un projet qui réponde effectivement à l'ensemble de ces défis, de ces exigences.
Est-ce que vous êtes pour supprimer le président de la République en France ?
Non, nous étions pour la suppression du poste de Premier ministre.
Des idées peut-être à porter dans une primaire, on y arrive. Le Conseil national du PS se réunit ce samedi. Il va aborder à nouveau cette question, plus précisément la question de l'organisation. Donc, sur le principe, il faut une primaire aujourd'hui pour désigner un candidat de la gauche.
Alors, je l'ai déjà dit, François Hollande, pour moi, est le candidat naturel de la gauche. En même temps, les primaires à gauche, si elles devaient être organisées, engagent chacun d'entre nous, que l'on soit effectivement ministre, président de groupe parlementaire, élu, responsable nationaux. Chacun devra effectivement pouvoir y participer et y contribuer. Le PRG a toujours été favorable, vous le savez, à des primaires.
Alors tout le monde chez vous n'est pas d'accord. Certains considèrent que le président de la République étant, vous avez utilisé vous-même le terme, candidat naturel, il peut se passer d'une primaire.
Alors, vous l'avez dit vous-même, aujourd'hui, on attend un certain nombre de réponses. Il y a plusieurs débats au sein du parti et c'est important d'avoir, de toute façon, de se préparer. Par exemple, au sein du parti, il y a aujourd'hui un certain nombre d'élus qui estiment que nous devons, dès maintenant, nous positionner et avoir un candidat pour les présidentielles.
Un candidat du Parti radical de gauche.
Tout à fait. Il y a ceux qui discutent des primaires, et puis il y a ceux, effectivement, qui, aujourd'hui, estiment que nous devons, si le président de la République le souhaitait, et je vous rappelle qu'il ne s'est pas encore exprimé sur cette question, le souhaiter, être soutenu par les radicaux de gauche. Donc il y a ce débat interne, il faut qu'il soit mené. Vous savez, nous on a un rendez-vous en septembre, c'est notre congrès, et ce sera un rendez-vous politique. Il faut que ce soit un rendez-vous politique. C'est le moment d'établir un programme que nous défendrons au vu des présidentielles. Et c'est ça l'important. Voilà ce que les PRG peuvent apporter de plus aux présidentielles ou aux futurs débats politiques sur les présidentielles. En même temps, nous apportons aujourd'hui dans ce gouvernement un certain nombre de visions que nous avons, chacun dans notre ministère. Pour ma part, j'ai pu le faire autant à la francophonie au développement que je peux le faire aujourd'hui, sans doute dans ma manière d'échanger avec les organisations syndicales aujourd'hui, ma vision de ce qu'est la fonction publique, avec cette volonté de préparer cette France de demain.
Mais en septembre, c'est pas un peu tard pour décider de faire une primaire ou pas une primaire ?
En septembre,
sachant la difficulté qu'il y a à organiser un tel événement démocratique et que le PS est censé le faire normalement 1 an avant l'élection présidentielle. Or, on est déjà à moins d'1 an avant l'élection présidentielle.
Pour notre part, nous aurons ce type de position et de débat après notre congrès de septembre. Donc nous sommes effectivement dans les mêmes dates en matière de rendez-vous. En même temps, parlons effectivement des présidentielles, parlons des primaires, parlons des combats que peut mener le radical de gauche, mais en même temps, rappelons que moi je suis membre de ce gouvernement et que nous sommes tous les jours au travail, au quotidien,
mais on a pas
sur les combats
réponse.
Et
vous,
les travaux que nous devons mener.
Vous voulez une primaire ou pas? Vous êtes plutôt pour une primaire ou si François Hollande, sachant qu'il donnera sa décision en décembre, donc après votre congrès,
Écoutez, moi j'ai déjà dit que si le Parti radical de gauche le décidait, je ne vais pas le décider seul, souhaitait effectivement avoir des primaires, moi je restais prête et disponible pour effectivement m'investir sur ces primaires.
Vous avez dit François Hollande candidat naturel, est-ce
oui.
que c'est le meilleur candidat pour la gauche?
Aujourd'hui, je pense que le président de la République est le meilleur candidat pour la gauche.
Ah, mais pourquoi?
Je pense tout simplement que le travail que nous avons mené commence, alors c'est toujours très difficile de dire ce genre de choses, commence à avoir un certain nombre de résultats, de retombées. On est dans un contexte un peu particulier où dire que les choses vont mieux n'est pas quelque chose d'audible. Les Français ont de la difficulté à l'entendre. Pourtant, on a un certain nombre d'éléments qui montrent effectivement que ce soit le chômage, que ce soit la croissance, que ce soit les contrats dans les entreprises, que les choses vont un peu mieux. Moi, j'ai toujours dit, malheureusement, que l'état dans lequel on avait récupéré la France nous permettrait pas de pouvoir... quelque part répondre à l'ensemble des engagements qui avaient été pris par le président de la République au vu de la situation de la France. Mais que l'ensemble des mesures que nous avons prises au fur et à mesure allaient pouvoir changer effectivement l'état de la France. Mais ça prendra encore plus de temps qu'on ne le pensait.
Et
alors ce sera peut-être dans 6 mois, ce sera peut-être dans un an, ce sera peut-être dans 2 ans. Mais les Français verront
dans
que
deux
les
ans,
choix
ce sera
qui ont
un
été
peu tard, Annick
auront
Girardin.
Été bons. Non, mais on n'est pas toujours obligé. On n'est pas toujours obligé, alors on peut espérer effectivement pour la France surtout et pour les Français d'avoir des résultats beaucoup plus rapides. Mais quelque part, quand on rappelle effectivement les conditions dans lesquelles on a trouvé la France économiquement, financièrement, ça explique aussi un certain nombre de retards sur les annonces qui ont pu être faites. En même temps, peut-être qu'il faut aussi se poser la question du quinquennat. Il faut aussi se poser la question de cette durée. Il faut aussi se poser la question du renouvellement ou pas d'un président de la République. Est-ce qu'on ne doit pas travailler demain sur un mandat de 7 ans unique? C'était plutôt effectivement ce que les radicaux pensaient.
En attendant, il est possible, vous le disiez vous-même, que François Hollande se présente puisqu'il est candidat naturel, meilleur candidat, 14% testé à 14% dans les sondages, talonné par Jean-Luc Mélenchon, à un Nicolas Hulot qui dit encore réfléchir à sa candidature. On en est là. Comment
vous avez
aujourd'hui
vu, non
il
mais,
peut être le meilleur candidat de la gauche
vous avez
dans
vu
ces
le
conditions.
Climat dans lequel aujourd'hui nous sommes. Vous avez vu combien la France elle a été attaquée de l'intérieur, qu'elle aussi poursuit des missions à l'international, qu'elle s'est engagée dans des guerres, dans des combats, qu'elle a aujourd'hui redressé à la hauteur de ce qu'on avait dit, le budget de la France, qu'aujourd'hui, on peut passer à une période de redistribution. Malgré tout, on voit bien que le climat social, le climat politique est anxiogène et que, effectivement, le président de la République est aux manettes et aujourd'hui, avec une incompréhension de l'ensemble des actions du gouvernement, les Français n'ont pas retrouvé la confiance. Mais les Français pourraient encore... la retrouver à partir du moment où nous aurons des résultats encore plus forts que ceux d'aujourd'hui. On verra les prochains chiffres du chômage, on verra les prochaines tendances. Mais je vous le rappelle, ça fait plus de 10 ans que les consommateurs n'avaient pas retrouvé une confiance comme ils l'ont aujourd'hui. Les choses viendront petit à petit.
Mais ça manque aussi de signes d'union, on le voit. Enfin, sur la loi travail, les amis de Martine Aubry... ont proposé des choses ou n'ont pas accepté des choses, mais ils ne sont pas dans cette majorité. Une partie des écologistes est toujours dehors. Les communistes sont plus que jamais loin du Parti socialiste. Donc comment vous comptez passer le premier tour, quel que soit le candidat?
Alors écoutez, moi je parlerai en tant que radical. Je suis dans ce gouvernement. Vous savez que nous sommes des partenaires solides, fiables, que nous défendons nos idées au sein de ce gouvernement. Quant aux autres composantes politiques... à chacun sa vie.
Une primaire PS-PRG, ça aurait encore du sens, on dit ça, parce que les communistes ne veulent pas participer à une primaire, les écologistes non plus. Une primaire avec un candidat de chacun de ses partis, ça vaudrait le coup?
Il est évident que, tel que moi je verrais effectivement s'il était décidé de faire des primaires, les composantes doivent être multiples. Une primaire à gauche avec deux candidats, c'est quelque chose, ou deux partis politiques, c'est quelque chose qui n'intéressera pas les Français en même temps. C'est quoi l'idée des primaires ? C'est d'avoir, de relancer une dynamique politique. C'est de renouer un dialogue avec les Français. C'est de présenter un programme politique. C'est de renouer avec cette confiance perdue. Et c'est surtout de donner une vision de ce pays. Où va la France demain ? Quelle est notre vision de la France de demain ? Comment redonner envie aux jeunes de s'impliquer, de s'engager dans leur pays ? C'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est ça la dynamique qu'il nous faut effectivement créer autour des primaires. Donc on ne le fait pas à deux candidats, on le fait avec une dynamique générale.
Et quand vous dites « je suis prête à m'investir », ça veut dire quoi ? Que vous pourriez être la candidate qui représente le PRG dans une primaire ouverte comme ça ?
Je crois que les PRG... devaient et doivent aujourd'hui faire entendre leur voix. Nous avons effectivement à défendre un certain nombre de projets politiques, un projet politique, un certain nombre, d'idées spécifiques. On en a évoqué quelques-unes là. S'il devait y avoir un candidat aux primaires, je l'ai déjà dit, au sein de mon parti, mais c'est une question de choix qui se fera au sein du parti, je pourrais effectivement, si c'était souhaité, représenter notre parti politique.
Sur un tout autre sujet, on a beaucoup parlé ces dernières semaines du sexisme en politique avec l'affaire Baupin. Cet après-midi, c'est au tour de la maire de Paris de le dénoncer. Anne Hidalgo a publié un courrier sur son compte Twitter, un courrier qu'elle a adressé à un maire. Elle revenait sur un incident survenu avec lui ce week-end. Vous soutenez ce type de démarche ? Vous trouvez qu'elle a eu raison de mettre les choses sur la place publique de cette manière-là ?
Oui, elle a entièrement raison. Moi, je m'inquiète de cette montée de haine, de cette banalisation, qu'on parle de sexisme, qu'on parle de racisme, qu'on parle d'homophobie. Toutes les violences, qu'elles soient verbales ou physiques, doivent être condamnées. Je crois que c'est ça qu'il faut dire. On ne doit rien banaliser.
Nous avons
des responsabilités en tant qu'élus. Nous avons des responsabilités et nous avons une obligation d'être exemplaires. Et sur la question du sexisme, Anne Hidalgo a été violemment attaquée. Je l'ai été aussi il y a quelques semaines, tout simplement parce que j'ai dit ce que je pensais de la loi travail. Et comme vous le savez aujourd'hui, à travers cette loi, un certain nombre de mécontentements s'expriment qui vont bien au-delà de ce projet de loi et qu'on profite de tous ces débats autour de ce projet de loi pour pouvoir quelque part évacuer un certain nombre de violences. Ce sont des violences verbales. Et moi, je crois qu'il faut, notamment en matière de sexisme, il faut que toutes les femmes qui ont connaissance ou qui sont victimes de ce type d'attaque verbale doivent effectivement les dénoncer fortement. On a la chance d'avoir le micro, on a la chance d'être lu, on a la chance d'être écouté. Alors faisons-le pour toutes celles qui ne peuvent pas le faire. Et c'est inadmissible. Et quand c'est repris par des hommes politiques, parce que la plupart du temps, que ce soit Anne Hidalgo ou effectivement, dans mon cas, voir des hommes politiques avoir ce type de comportement me choque profondément.
On a pu parler d'omerta à propos de ce phénomène. Vous reprendriez ce terme ?
Je ne sais pas s'il y a une omerta. Moi, j'en ai été victime une fois. Je l'ai dénoncé et je le dénoncerai à chaque fois. Maintenant, je n'ai pas vu ou je n'ai pas assisté à des cas qui auraient nécessité effectivement d'être connus.
Voilà, bah écoutez, c'est la fin de Mardi Politique. Merci à vous, Annick Girardin. Je rappelle que vous êtes ministre de la fonction publique. Merci à nos partenaires Libération et France 24. Et merci à Mathias Golchani pour la réalisation de cette émission.